Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Mentalist.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Si je vous parle d'une série dont le héros a une double personnalité, il travaille au sein des forces de police, il est pétillant, souriant, taquin, mais compétent. Mais en fait, au fond de lui, il traîne un lourd passé. Il est terriblement perturbé et utilise sa position au sein de la police pour mener à bien son désir de tuer. Vous pensez que je vais vous parler de Dexter, la formidable série où Michael C. Hall incarne un tueur en série de nuit et un membre de la police scientifique de jour? Eh ben non, pas loin, mais non. En fait, je vais vous parler de Mentalist. Oui, le mentaliste, avec ce personnage aux cheveux blonds bouclés et au sourire enjôleur, avec ses enquêtes criminelles bien carrées, bref, le mentaliste, la série qui a fait les belles soirées TF1. Eh bien oui, et mentaliste correspond parfaitement à la description que je vous en ai fait. Un homme qui désire assouvir sa vengeance et tuer un autre homme, et pour cela il intègre la police afin de mieux débusquer sa proie. L'homme, c'est Patrick Jane, alias Simon Baker, et sa cible, c'est John le Rouge. Le mentaliste a été lancé aux États-Unis par la chaîne CBS à la rentrée 2008 et aura duré jusqu'en 2015, soit 7 saisons et 151 épisodes. Simon Baker interprète le rôle de Patrick Jane. C'est un consultant, il est donc impliqué dans la plupart des enquêtes du CBI, le California Bureau of Investigation, le bureau californien d'investigation en français. Robin Tunney dans le rôle de l'agent Teresa Lisbonne, qui était avocate dans la saison 1 de Prison Break, si vous vous souvenez. Et dans la série, il y a aussi Tim Kang, qui tient le rôle de l'agent Shaw, et Owen Yeoman, que l'on a vu dans Génération Kill, la série sur les affrontements en Irak, qui, elle, est dans le rôle de l'agent Rigsby, et Amanda Righetti, qui était Ellie, la jeune sœur de Kristen, dans Newport Beach, dans le rôle de l'agent Van Pelt. On découvrira au fil des épisodes, d'ailleurs, que ces deux-là sont ensemble. La série se présente comme un procédural, à savoir une série policière avec une enquête dans chaque épisode, comme il en existe déjà énormément, mais avec un personnage hors norme, un personnage qui était parfait pour l'acteur Simon Baker. Bruno Heller, le créateur de la série, nous en a parlé alors qu'il était de passage à Paris, c'était en 2015. Le personnage va très bien à Simon.
Was a lucky fit for Simon.
Simon a beaucoup d'humour, mais il peut aussi se montrer très sérieux. Il n'aurait pas trouvé sa place dans une série policière classique. Il a un côté très sombre, mais aussi une générosité énorme et l'envie d'être lumineux en gardant sa part d'ombre pour lui. Et c'est très rare chez les acteurs. C'est d'ailleurs très rare tout court. Et par chance, le personnage est le reflet de ses caractéristiques déjà présentes chez Simon. À l'origine, Bruno Heller est le créateur et producteur de Mentalist, et c'est aussi le créateur de la fameuse série Rome. Oui, vous vous souvenez, la reconstitution historique de HBO. C'est une des séries les plus chères au monde avec 100 millions de dollars, 8 millions par épisode. Elle n'aura duré que 2 saisons, et pour son nouveau projet, Bruno Heller a été marqué par l'omniprésence de boutiques de médiums à Los Angeles. Il y en avait quasiment partout, dans toutes les rues. Il était donc tentant de bâtir une série là-dessus. Et l'autre élément, c'est le charlatan qui devient le héros, mais un héros profondément torturé. La série est un mélange de formats, des formats souvent vieux comme la télévision, vieux comme les séries, mais qui fonctionnent bien ensemble. Alors le premier format, c'est le Boy-Girl Detective Show. Oui, ça peut paraître quand même un peu obscur comme ça, mais il s'agit en fait d'un gars, d'une fille qui font des enquêtes. C'est le buddy cop, hein. Ils sont deux pour mener des enquêtes, un garçon et une fille. Par exemple, c'est Pour l'amour du risque avec Jonathan et Jennifer, c'est Mulder et Scully dans X-Files, c'est Les deux font la paire, Scarecrow et Mrs. King, d'une façon plus extrême, volontairement parodique justement, qui parodiait ce genre, c'est David et Maddie dans Clair de lune. L'autre format que l'on retrouve dans Mentalist, c'est le consultant qui travaille auprès des enquêteurs de la police, à savoir la personne extérieure qui met son grain de sel dans une enquête. C'est Sherlock Holmes, c'est Jessica Fletcher dans Arabesque, par exemple. Et le troisième format, un peu plus récent, qui est là pour justement donner un peu de piquant à ces deux genres, c'est le spécialiste arrogant et trop sûr de lui qui va semer la panique dans un domaine. Ben, c'est Castle, par exemple, ou c'est Bones. Là, Patrick Jane, c'est le spécialiste arrogant. Il est sûr de lui, il intègre un service de la police. On pourrait croire que Patrick Jane est un médium, mais non. En fait, et c'est ça l'intérêt de la série, c'est un faux médium qui s'est affirmé en tant que tel après des années à l'avoir prétendu. Mais il a avoué qu'il n'avait strictement aucun pouvoir surnaturel, que tout provenait de ses capacités d'observation et de déduction. Car oui, un mentaliste, ce n'est pas un médium, c'est juste une personne, c'est une personne qui utilise l'acuité mentale, l'hypnose et la suggestion pour comprendre et analyser les autres. Et Patrick Jane va même s'employer à contredire chaque médium qu'il va croiser et à prouver que ce sont eux des charlatans, tout comme lui, il pouvait l'être à une époque. Et c'est intéressant parce que, en cela, la série prend dès le départ le contrepoint de séries qui étaient à l'antenne à l'époque. Des séries comme Medium avec Patricia Arquette dans le rôle d'Alison Dubois ou Ghost Whisperer avec Jennifer Love Hewitt. Par contre, on peut noter qu'il y avait une comédie policière à la même époque, Psyche, Enquête malgré lui, qui a été lancée en juillet 2006 et qui utilise exactement le même stratagème du faux médium qui aime la police. Mais ce coup-ci, c'était plus une comédie. Patrick Jane était donc un faux médium qui finalement s'est amendé pour travailler avec la police. Au cœur de ce revirement, il y a un drame. Patrick Jane s'est vanté être capable d'arrêter un dangereux tueur en série. Et pour se venger, le tueur en série a assassiné sa femme et son enfant. Ce tueur, c'est Red John, John le Rouge, un tueur machiavélique redoutable qui signe ses crimes en y laissant un smiley peint en rouge avec le sang de ses victimes. Il va devenir l'obsession de Jane. Il veut le trouver et le tuer. C'est le côté très très sombre de la série qui est compensé par la luminosité et l'humour des personnages. Le message envoyé au spectateur est que d'être amusant permet à Jane de supporter son fardeau et de continuer à vivre. Mais il ne faut jamais oublier que Jane a une seule obsession, se venger. Tous les titres des épisodes font d'ailleurs référence au rouge, jusqu'à celui où le serial killer disparaît. À partir de là, ce sont d'autres couleurs qui figurent dans les titres d'épisodes. Mentaliste, c'est donc une quête pour la rédemption. La rédemption venant de la part d'un personnage autrefois un charlatan amoral. Plutôt que d'être aigri et triste, Patrick Jane est léger, malicieux, intelligent, drôle et troublant. Un mystificateur et un arnaqueur qui aime porter sur les nerfs des gens et qui est constamment en costume et veston, donc avec une belle prestance. Mais sans cravate, donc sans contrainte. Et il va subvertir une équipe de policiers très conventionnelle et bousculer la procédure et les enquêtes. C'est ce que nous a confirmé l'interprète du personnage, Simon Baker lui-même. C'était en 2010. Au festival de télévision de Monte Carlo, nous étions quelques journalistes face à lui. Et moi, je lui ai demandé ce qui l'intéressait dans la série. Très vite, j'ai vu que l'idée derrière The Mentalist avait un fort potentiel commercial et pouvait plaire au plus grand nombre, tout en laissant assez de place pour développer un personnage doté d'une certaine gravité dramatique. Vous trouvez que le personnage de Patrick Jane est grave? Pourtant, il semble s'amuser. C'est vrai, il s'amuse beaucoup, mais il a aussi une grande force intérieure et des facettes plus sérieuses, voire sombres. Mais elles ne sont révélées qu'au compte-gouttes. C'est un personnage avec une grande puissance pour moi. Pensez que ce qui est au fond de lui, c'est à cause du meurtre de sa femme et de leurs enfants ? Pour vous, même quand il se comporte avec légèreté ou quand il se montre arrogant, il y a quand même toutes ces choses au fond de lui ? Ouais. C'est comme Pagliacci. C'est un personnage qui est détruit et qui cherche la rédemption. Et c'est difficile parce qu'il est incapable de se pardonner à lui-même. Il a donc ce conflit intérieur et sa vulnérabilité qui existe en lui et à cause de ce traumatisme qu'il a vécu. Quand la série arrive en 2008, elle est à contre-courant des séries policières scientifiques qui cartonnent à l'époque, avec les experts et ses succès d'années comme NCIS. Dans ses tout premières interviews promotionnelles, Simon Baker revendique une série policière à l'ancienne, où l'on valorise plus l'humain à la mèche de cheveux laissée sur le tapis. Mon personnage se sent en vie quand il met le bazar dans la tête des gens, pas s'il devait utiliser des microscopes et comparer l'ADN des suspects, disait-il. Et de citer Columbo comme référence. Et il en a fait de même à notre micro au Festival de télévision de Monte-Carlo. J'adorais Columbo, surtout les épisodes les plus anciens. Et oui, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de ce personnage à nos scénaristes. Mais pour la plupart, ils sont bien plus jeunes que moi. Cette référence ne leur parlait pas beaucoup. Je leur ai prêté quelques DVD, mais bon. Mais je sais que Columbo a été une série extrêmement populaire en France.
Enormous.
Et comme le personnage de Patrick Jane n'est pas officiellement policier, il peut être impertinent et ne pas obéir aux règles. Il s'immisce dans les maisons sans y être convié, il rentre dans l'intimité des victimes, il se montre très direct, provocateur, choquant, et il pose des questions incongrues. Tout cela paye. Ces éléments, cette impertinence, ce côté un peu sombre refoulé. Bref, la série est la seule nouveauté de la rentrée 2008 à rentrer aux États-Unis dans le top 10 des meilleures audiences. La première saison fait quelque 17 millions de spectateurs en moyenne. Évidemment, le charisme de Simon Baker n'y est pas pour rien. Simon Baker, justement, c'est un acteur australien, originaire de Tasmanie, d'ailleurs tout comme Errol Flynn. Juste avant qu'on lui propose Le Mentaliste, il était un des personnages réguliers d'une autre série, Smith, avec Ray Liotta en vedette. L'histoire d'une équipe de cambrioleurs. La série a fait un bide retentissant, puisqu'elle a été stoppée au bout de 3 épisodes. Ce n'était donc pas la bonne pioche pour lui, mais le diffuseur, la chaîne CBS, ne le laisse pas tomber comme ça, et pensera à lui quand le projet de Mentaliste arrivera. De 2001 à 2004, Baker avait déjà été la vedette d'une autre série, qui, elle, avait duré donc plusieurs années, et c'était encore sur la CBS. La série s'appelait The Guardian. En France, Le Protecteur. Une série judiciaire avec un avocat arrêté pour usage de drogue, qui, pour purger sa peine, doit accepter de devenir défenseur d'enfants alors qu'ils sont devant le tribunal. Et c'est étrange parce que la série n'a en fait jamais marché en France, et elle proposait déjà un personnage faillible qui se traîne des casseroles et tente de faire face. C'est aussi une preuve que le look de Simon Baker n'est pas le seul élément qui contribue au succès de Mentaliste. Baker, lui, a 39 ans au moment où le Mentaliste démarre. Il est né le 30 juillet 1969, si vous voulez lui souhaiter son anniversaire. Il a pris le surf dès l'âge de 7 ans et son premier rôle était dans une publicité pour une glace. Il tient un rôle aussi dans un soap opéra australien, East Street, en 1992, aux côtés de sa femme Rebecca Rigg. Et on le connaît bien aussi pour L.A. Confidential, et pour son rôle dans le film « Le diable s'habille en Prada ». Et si vous voulez tout savoir, Simon Baker est myope. Dès que la prise est achevée, il remet ses grosses lunettes de vue. Pour la série, Bruno Heller, le créateur-producteur, recherchait une sorte de Cary Grant. Et Simon était le premier de notre liste, a-t-il dit. Grâce au succès de The Mentalist, Baker gagne au bout de 3 saisons quelque 300 000 dollars par épisode. Si on parle du personnage de John le Rouge au début de la série, il ressurgit dans le dernier épisode de la saison 1, en tuant une jeune fille et en capturant sa sœur jumelle. Mais il s'agit peut-être d'un stratagème pour attirer Patrick Jane. John le Rouge va aussi parvenir à s'infiltrer dans le système informatique du CBI. L'équipe et Patrick découvrent Rosalyn Harker, qui est la petite amie aveugle de John le Rouge. Au début de la saison 2, suite au comportement obsessionnel de Jane, l'affaire John le Rouge est retirée de l'équipe du CBI. Et c'est maintenant un agent venu de Sacramento, Sam Bosco, qui est en charge de l'enquête. Le nouveau patron est totalement hermétique au charme et à l'impertinence de Jane et va même l'envoyer en prison pour espionnage parce que, en effet, Jane a quand même dissimulé un micro-espion dans son bureau. John le Rouge va frapper à nouveau un de ses complices, agissant en tant que secrétaire au sein du CBI, va décimer toute l'équipe de Bosco et envoyer ce dernier à l'hôpital où il décédera peu après. Vers la fin de cette saison 2, Jane commence une idylle avec Christina Fry, une médium qui était déjà intervenue la saison précédente. Elle est interprétée d'ailleurs par Leslie Hope, que vous connaissez peut-être si vous vous souvenez de son rôle dans 24 heures chrono. Et cette médium, Christina Fry, provoque elle aussi Red John. Simon Baker lui-même avait soumis cette trame au producteur de la série. Depuis le drame qui a frappé sa femme et sa fille, le personnage de Patrick Jane n'a plus aucune vie romantique. Il semblait, pour lui, être temps maintenant de l'ouvrir à nouveau à cette possibilité. À la fin de la saison, Jane va enfin être confrontée à John le Rouge. Sans le voir, mais il va l'entendre. Et John le Rouge va lui donner un indice. Tiger, Tiger. Un poème de William Blake. Dans la saison 3, Christina, kidnappée par John le Rouge, va être laissée à moitié morte. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Clairement, cette nouvelle saison positionne John Lerouge comme étant à la tête d'un groupe de personnes qui lui obéissent. Il n'est pas seul. Il est d'ailleurs parvenu à avoir une taupe au sein du CBI, qui est identifiée à la fin de la saison. C'est l'agent Craig du FBI. Avec des audiences de 15 300 000 téléspectateurs en moyenne pour ces deux dernières saisons, la chaîne CBS insiste pour que la série reste pleine d'humour et le personnage du mentaliste très malicieux. Mais Baker pousse pour que son personnage conserve son côté sombre. Et avec la fin de cette saison 3, il va aller jusqu'aux limites de ce que peut faire son personnage sans pour autant perdre la confiance du spectateur. Il va commettre un meurtre de sang-froid. Pour le dernier épisode de la saison, on nous montre la confrontation entre Patrick Jane et John Lerouge. Enfin face à face, en plein centre commercial, en plein public. Après une courte discussion, froidement, devant les gens, Jane sort une arme et abat l'homme en face de lui. Puis il repose son arme et continue de boire son thé avant de se rendre à la police. C'est donc un meurtre de sang-froid. Mais l'homme qui l'a tué s'avère ne pas être John Lerouge, mais Timothy Carter, un complice du meurtrier. D'ailleurs, le personnage est interprété par Bradley Whitford de la série The West Wing et son nom était retiré de toutes les annonces promotionnelles et même du générique. C'était le secret absolu. Avec cet acte, Baker et le producteur obligent le spectateur à voir en face une facette extrêmement sombre du personnage. Au début de la saison 4, Patrick Jane est incarcéré pour le meurtre de John Lerouge, enfin, le prétendu John Lerouge. Jane prétend que l'autre avait une arme et qu'il a donc agi en self-défense. Mais aucune arme n'est retrouvée. Même s'il savait que Timothy Carter n'était pas Red John, Jane va prétendre qu'il a bel et bien tué le serial killer, histoire de faire sortir Red John du bois. Après une saison 3 assez sombre, la 4 est beaucoup moins feuilletonnante que la précédente. C'est de la volonté même de Bruno Heller. Cependant, pour la clôturer, Patrick Jane est viré de la CBI, décide de tirer un trait définitif sur John Lerouge et il part à Las Vegas. On le retrouve, quelques mois plus tard, reprenant ses activités de faux médium, s'adonnant à la boisson et flirtant avec une nouvelle conquête, Lorelai Martins. Sauf que tout cela n'est qu'une mise en scène, un stratagème pour débusquer Red John, John Lerouge, et Lorelai est en fait la complice de John Lerouge. Lors de la 5e saison, le 100e épisode de la série est en fait un flashback qui nous montre l'arrivée de Patrick Jane au CBI directement en sortant de l'hôpital psychiatrique où il a été interné pendant un an après la mort de sa femme et de sa fille. Il est obsédé par leur meurtrier, John Lerouge, et il a l'espoir de récolter des informations sur l'enquête. Il va donc utiliser un stratagème pour se faire engager au CBI afin d'être bien au cœur de l'enquête. Du fait que Patrick Jane a déjà été face à face avec John Lerouge sans le savoir et qu'il lui a même serré la main, bon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est ce que lui a dit Lorelai Martins, il y a 7 suspects, une liste de 7 personnes pouvant potentiellement être John Lerouge. La liste de ces 7 suspects est révélée à la fin de la saison. Parmi les suspects, il y a Bob Kirkland, un agent de la sécurité intérieure, Ray Hafner, un agent du CBI, le shérif Thomas McAllister, Brett Partridge, un analyste du CBI, donc vraiment des gens qui sont au cœur du complot, littéralement. Et il y a même Gail Bertram, le directeur du CBI. Cette saison 5 marque cependant une chute brutale dans les audiences. On passe d'un peu plus de 15 millions à 11 820 000 spectateurs en moyenne. Cela est en partie dû à un changement de programmation. La série passe du jeudi soir au dimanche soir sur la CBS. Cependant, elle conservera cette même audience de 11 millions, un peu plus de 11 millions, pratiquement jusqu'à la fin. Ce qui montre une belle constance et un public assez fidèle. Dès le premier épisode de la saison 6, le jeu du chat et de souris entre Patrick Jane et John Lerouge reprend, et il fait déjà 2 victimes. Un des suspects de la liste des 7 noms, et Lisbonne elle-même, tombée dans un traquenard, mais qui s'en sortira indemne. Le meurtrier en effet confirmé qu'il allait éliminer les suspects les uns après les autres. Avec sa liste, Jane les met donc tous en danger. John Lerouge va aussi s'en prendre à la psychologue de Patrick Jane en la décapitant et en mettant sa tête dans un four. Quand je vous avais dit que la série était sombre, hein ? Épisode après épisode, la liste se réduit. Un indice est donné à Jane, John Lerouge a un tatouage sur le bras. Mais 3 des suspects ont le même tatouage. Et puis la recherche pour découvrir l'identité de John Lerouge est compliquée par l'existence, et ça s'est confirmé, d'une organisation de policiers et de magistrats corrompus. L'association s'appelle la Blake Association. Le tatouage et leur carte de visite, et les mots « Tiger, Tiger », leur signe de reconnaissance. C'est cette conspiration qui permet à John Lerouge de circuler en secret et même de pénétrer dans les locaux du CBI ou du FBI et y supprimer quelques témoins gênants en toute impunité. Patrick Jane va donc tenter le tout pour le tout et il va révéler en public lors d'une conférence de presse que Bertram est John le Rouge, le tueur en série. Immédiatement, le CBI est fermé et c'est dans le 8e épisode que John le Rouge, Red John, est enfin révélé. C'est l'acteur Xander Berkeley, que l'on connaît bien pour avoir été le directeur du CTU de 24 heures chrono, qui incarne le personnage. Il se dissimulait sous l'identité du shérif Thomas McAllister, un personnage assez régulier dans les saisons précédentes. Xander Berkeley raconte d'ailleurs qu'il a été stupéfait d'apprendre que c'était lui, John le Rouge, et honoré de passer ainsi à la postérité. « Jusqu'au bout, j'ai cru une fausse piste », dit-il. Finalement confronté à Patrick Jane, qu'il a percé à jour, Red John tente de s'enfuir, Jane le rattrape et l'étrangle à main nue, non loin du cimetière où sont enterrées sa femme et sa fille. Une nouvelle fois, le pari est audacieux. Faire du charmant et drôle Patrick Jane un assassin sans aucun remords. Bruno Heller, de son côté, reconnaît qu'il n'avait décidé qui était Red John qu'au moment de la saison 5 et que pendant plusieurs saisons, la série avait donc des indices sur Red John, sans savoir qui était vraiment Red John. L'intrigue de Red John, John le Rouge, est donc achevée. Et 3 ans avant, en 2010, Simon Baker nous parlait de l'importance que cette intrigue et que le personnage de John le Rouge revêt pour la série. Vous diriez que c'est un élément essentiel de la série ? Et si un jour vous découvrez l'identité de Red John et que vous l'arrêtez, ce serait la fin de la série ? Je pense qu'il faudrait s'arrêter là. C'est dire à quel point je trouve cette partie du récit cruciale. C'est le nœud de toute cette histoire, l'essence même de la série. C'est la base sur laquelle on a bâti The Mentalist. Si Jane arrive à l'attraper, mais qu'on veut poursuivre la série, il faudrait remplacer John le Rouge par un nouvel ennemi juré. Je ne suis pas sûr que ça soit possible. Ce qui est intéressant avec John le Rouge, c'est qu'en prenant un peu de recul, on voit bien que c'est d'abord un outil narratif qui permet de maintenir la tension dramatique. Comme Kaiser Soze dans The Usual Suspect. Dans la série, le personnage de John a un aspect presque mythique. Alors, même si moi, à titre personnel et de façon tout à fait égoïste, j'aimerais qu'on consacre chaque épisode de The Mentalist à John le Rouge, c'est impossible. Il perdrait cette dimension mythique. Or, il faut qu'il la conserve. Les téléspectateurs aiment ça. Et pourtant, malgré ce que pensait Simon Baker, la série continue après la fin de Red John. Donc je vous laisse juger. 2 années ont passé, l'action se déroule maintenant à Easton et non plus à Sacramento. Jane va aider le FBI et son agent Dennis Abbott, interprété par Rockman Dunbar de Prison Break, et retrouve Lisbonne avec qui il va enfin vivre une relation amoureuse. Ils vont aussi enquêter sur un nouveau tueur qui assassine d'anciens membres du CBI. La saison 7, la saison finale, ne va compter que 13 épisodes, donc moitié moins que les précédentes. On est dans une série d'enquêtes menées par Jane en tant que consultant du FBI. Dans l'épisode final, l'agent Cho est promu à la tête de la section du FBI et Patrick Jane coince un serial killer, Lazarus, un exterminateur de cafards, qui est en fait serial killer. Et il se marie avec Lisbonne. Donc, le dernier épisode de la série, c'est un mariage. Ce final réunit 10 millions de fidèles sur la CBS. Et Bruno Heller nous a parlé justement de ce final. En tant que scénariste, c'est très simple. Jamais je n'ai envisagé que l'histoire se poursuive une fois ce mystère résolu. C'est comme Moby Dick. Il faut tuer la baleine blanche. Une fois que c'est fait, c'est fini. Mais l'histoire s'est étoffée et les personnages ont évolué. Et c'est là toute la beauté de la télévision, qui est vraiment un média collaboratif. Peter Wirth, le directeur de la branche télé de Warner Bros., m'a suggéré que non seulement il fallait résoudre la question de John le Rouge, mais aussi raconter le retour de Jane chez lui, de montrer la nouvelle dynamique de ses personnages dans un nouveau lieu, habité par un nouvel espoir, oui. De raconter ce qui leur arrive après. Et pour moi, la suggestion de Peter était excellente. Ça nous permettait de ramener ces personnages dans la lumière, de leur donner une fin heureuse.
bring those characters into the light and to give it a truly happy ending.
Je l'ai présenté de façon un peu directe. Mais je trouve vraiment qu'on a une obligation éthique. À la fin de l'histoire, le public doit être heureux de l'avoir suivi. Il ne doit pas simplement en retenir une leçon, ni en repartir avec la conviction que la vie est profondément tragique. Même si c'est le cas. Les histoires servent à ça, à être différentes de la vie. D'où le choix de ce happy end.
So, hence the happy ending.
Avant même que les 13 épisodes de la saison 7 ne se terminent, la maison de production, Warner, a proposé la série à d'autres chaînes qui pourraient la poursuivre, d'autant que la série est sur une autre direction narrative maintenant, depuis la fin de Red John la saison dernière. Et malheureusement, personne n'a pris la suite. En 2014, Bruno Heller avait déjà quitté la production de The Mentalist, à la fin de la saison 6, pour s'impliquer dans un autre projet, très différent, projet qu'il supervise encore de nos jours, dont il est toujours le showrunner, une série préquelle à Batman, qui se focalise sur le jeune commissaire Gordon, Gotham. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.